Alors, Antoine, donc, on est en 1683, il a 25 ans, il décide de partir en Amérique. Il va partir, bien sûr, à bord d'un voilier de ce type-là. On met 3 mois à faire la traversée de l'Atlantique pour se retrouver au Canada, en Nouvelle-France. Si tout va bien. Parce que s'il y a quelques coups de vent, une tempête, ou etc., on n'est pas sûr d'arriver à la destination choisie. Pour revenir, on ne met que 2 mois, parce qu'on est porté par les courants et par les vents favorables. Les vents, ce sont les alizés. Et donc, pendant 3 mois, Antoine a le temps de réfléchir, de rêver, d'imaginer cette vie qu'il va se faire en Amérique. Et il va avoir l'idée de non pas changer de nom, comme c'est dit ici, mais de modifier son nom. Il est toujours Antoine Lomé, il le sera toujours, jusqu'à son dernier souffle. Mais un garçon du tiers-état, de quoi rêve-t-il ? Ben, il rêve d'être noble. Donc il ne va pas chercher bien loin. Et ça nous montre aussi le pragmatisme du personnage. Il faut que ça soit efficace. Donc il connaît des familles nobles, qu'il a rencontrées aux foires et au marché de Saint-Nicolas, etc. Et il connaît par exemple le baron de Lamotte Bardigue et du Moutette, dont le château est toujours à Bardigue et dont les descendants, même s'ils portent plus le même nom, s'occupent de la propriété. Donc, il va emprunter le nom de Lamotte, une partie du nom du baron. Donc dans sa tête, il est Antoine Lomé, chevalier ou sieur de Lamotte. Mais l'origine de ce nom-là, c'est bien Lamotte de Terre, même si ça ne s'écrit pas comme ça. Et Antoine doit trouver que c'est un peu trop paysan encore, un peu trop rural. Il faudrait quelque chose qui change un peu. Donc il va ajouter Cadillac. On n'est pas sûr du tout du pourquoi, du comment, de ce choix. Des noms en hack, on en a beaucoup en Occitanie, on en a en Nouvelle-Aquitaine, donc ça n'est pas étonnant. Maintenant, quand il est parti de Saint-Nicolas pour gagner les côtes charentaises, car à cette époque, on s'embarque pour traverser l'océan Atlantique que des côtes charentaises, entre Rochefort et La Rochelle, mais pas ces ports-là. Rochefort a déjà des chantiers navals, La Rochelle commence à se développer, mais on part surtout des îles charentaises et des petites îles, l'île Madame, l'île d'Aix, même pas Oléron ou Ré. Mais c'est toujours à partir de là. Et on peut imaginer que pour gagner les côtes charentaises, il va naviguer, oui, je ne peux pas dire autrement, sur la Garonne. Il a pu demander le droit de monter sur une gabarre qui transporte les barriques d'alcool, de vin, de céréales, etc. Et ces gabarres descendent jusqu'à Bordeaux. Elles ne le font pas d'une seule traite. On fait des escales, d'abord parce qu'il y a des marchandises à livrer, puis qu'il y en a d'autres à embarquer. Donc on peut imaginer qu'Antoine, il s'est arrêté dans la petite ville de Cadillac-sur-Garonne, qui existe toujours aujourd'hui. C'est déjà une explication pour se souvenir de ce nom-là. Mais on raconte autre chose. C'est qu'à Cadillac, il y a un château qui existe toujours, qui a été construit par le duc d'Épernon, qui existait à ce moment-là. Et on raconte que le duc d'Épernon avait une fille, Angélique, dont Antoine serait platoniquement tombé amoureux. Il n'y a pas d'autre meilleur moyen pour se souvenir de ce nom de Cadillac. Voilà. Donc, dans sa tête, il est chevalier de Lamotte Cadillac. Mais quand il descend de son voilier au large de la Nouvelle-France, dans les archipels qui sont là, on ne lui demande rien. Il n'y a pas de papier d'identité, il n'y a pas de passeport, etc. Il n'y a aucune vérification. Le seul papier qu'on pouvait avoir à cette époque, c'était un certificat de baptême rempli par le curé de la paroisse où vous aviez été baptisé. Mais rien n'indique qu'Antoine ne l'ait eu, il peut l'avoir eu, l'avoir perdu, etc. Donc, on ne lui demande rien. Et puis, il a une inquiétude première qui est de se nourrir. Donc, il change de tenue. Il adopte la tenue des trappeurs, que l'on appelle officiellement au Canada des coureurs des bois. Dans les papiers, ils sont désignés sous ce terme-là. Donc Antoine, devenu trappeur, chasseur, compte bien sur une belle chasse pour pouvoir vendre les fourrures des animaux qu'il aura tués. Et en particulier, il s'agit de fourrures de castor. L'Europe achète en grande quantité les fourrures de castor. On en met dans toutes les vestes, dans toutes les capes des personnages qui ont les moyens, bien sûr, de payer ça. Donc, il chasse dans cette région-là, qui est peuplée par les Anglais. Les Français sont sur le Saint-Laurent ou de l'autre sur l'autre rive. Donc, il fait connaissance des Anglais, il apprend l'anglais à leur contact, et il sait très bien que les Anglais, c'est l'ennemi juré de la France. En même temps, il fait connaissance d'autres Français, la famille Guyon en particulier. Alors, le monsieur Guyon, c'est un commerçant et c'est un corsaire. Corsaire, c'est-à-dire que le roi lui a fait une lettre l'autorisant à attaquer les navires ennemis, donc les navires anglais, à s'emparer, bien sûr, de la cargaison, en donner une grosse partie au roi, puis en garder un petit pourcentage pour lui. Donc, Antoine fait connaissance avec ce métier-là, fréquente ces gens-là, et navigue souvent sur les bateaux du corsaire, le long des côtes, et il observe. Il observe comme avec les Anglais, il fait ça tout le temps. Ça l'intéresse, il est très sensible à ce qui se passe autour de lui, donc il note, petit carnet, on va noter où il y a les zones de peuplement d'Anglais. Est-ce qu'il y a une caserne? Combien de soldats dans la caserne? Et puis quand il longe les côtes, eh bien il note là où il y a des petites embouchures de cours d'eau, des anses où des navires pourraient se mettre à l'abri si jamais on attaque avec des bateaux, ce qui sera le cas, les Anglais, ça peut servir. Donc voilà notre homme en épieur de tout ce qui est du monde autour de lui. Dans la famille Guyon, il y a une demoiselle, Marie-Thérèse. Elle est la nièce du corsaire. Elle est née en Nouvelle-France. Elle est orpheline. Elle a été confiée aux premières religieuses françaises qui se sont installées là-bas. Ce sont les Ursulines. Donc elle a reçu une certaine instruction, elle aussi. Mais elle a 16 ans. Il en a 29 et il décide de se marier. Et le mariage va avoir lieu à Québec. Et à cette occasion, Antoine fait rédiger chez notaire, et donc ça se trouve au Canada, un contrat de mariage. Et c'est à cause de ce contrat de mariage que l'on découvre la nouvelle identité ou l'identité modifiée d'Antoine. Car il signe la Motte Cadillac, voilà sa signature. Sur un cachet de cire, il applique le blason qu'il s'est fait fabriquer. Et Marie-Thérèse est persuadée d'épouser Antoine Lomé, chevalier de la Motte Cadillac. Ce blason, eh bien, c'est tout simplement le blason du baron de la Motte Bardigue. Antoine n'a rien inventé. Il a gardé les mêmes divisions, les mêmes couleurs, ces petits oiseaux sans bec qu'on appelle les merlettes. Il a juste ajouté une couronne comtale, parce que quant à faire quelque chose, autant le faire avec soin. Hein, faut que ce soit bien ciselé. Voilà. Et il faut se rappeler de ce blason, parce qu'on va le retrouver ailleurs, et grâce à Antoine. Donc le jeune couple s'installe dans cette baie-là, dans une bourgade faite de bois, de broc, enfin, qui s'appelle quand même Port-Royal. Et c'est là qu'ils passeront leurs premières années. Et là encore, Antoine très vite se fait connaître et remarquer par toute la communauté française, quelle qu'elle soit. Et il n'hésite pas à donner la main, à aider, à réparer les fortifications modestes, mais quand même, etc. Et c'est à ce titre-là qu'on va finalement, sur ordre du roi, qui ne le connaît pas du tout, bien sûr, le réquisitionner avec d'autres. Et ils vont donc devoir monter à bord d'un navire, d'un voilier qui s'appelle l'Embuscade. Et ils sont chargés d'observer, il y a donc un équipage pour s'occuper du bateau, mais eux doivent observer tous ces environs, les archipels qui sont là, les côtes, pour savoir où sont placés les hommes, les Indiens, les Français, les Anglais, évaluer à peu près le nombre d'habitants, repérer les côtes, etc. Antoine est tout à fait à l'aise. Ce travail-là est prévu normalement, enfin ils ont été réquisitionnés pour un mois. Mais au bout d'un mois, l'embuscade ne parvient pas en raison des tempêtes à revenir sur ces côtes-là, ces côtes ouest. Et le voilier dérive, et dérive tellement bien qu'il se retrouve sur les côtes charentaises. Donc Antoine est là, complètement démuni. Sa femme a déjà eu un bébé et elle est encore enceinte, est en Nouvelle-France. Comme il a les poches vides et puis qu'il ne peut pas aller frapper chez quelques seigneurs locaux parce que on va lui demander des comptes, il décide de monter à Paris, puisqu'il est, le pouvoir est là, c'est là qu'il faut aller si on a besoin d'aide. Donc il va à Paris, il écrit une lettre au ministre du Commerce et des Territoires Outre-mer, je vais dire, Seignelay, et Seignelay a déjà entendu parler dans des courriers de cet homme. Donc finalement, il le reçoit, il le fait parler, et il s'aperçoit de la connaissance qu'a Antoine du territoire de la Nouvelle-France. Et comme il y a ces projets de guerre contre les Anglais, Seignelay se dit qu'il aurait intérêt à garder cet homme avec lui. Et il va se l'attacher. Et Antoine va se retrouver à rester en France 18 mois. Et il participe aux réunions, explique ce qu'il sait du territoire, etc. Au bout de 18 mois, il est autorisé à partir. Et il part en étant courrier du roi. C'est un titre officiel, il porte en effet tous les papiers signés, assignés, etc. Il peut porter aussi du courrier de particulier, d'habitants de Québec et d'ailleurs. Mais c'est un rôle et un titre officiel. Il a aussi un grade d'officier de marine, ce qui veut dire solde. Donc quand il arrive, il récupère Marie-Thérèse et on décide finalement d'abandonner la côte et de s'installer à Québec. Car Antoine doit remettre le courrier, de toute façon, au gouverneur qui représente le roi de France, qui s'appelle Frontenac. Comme ça. Donc, ils font connaissance, ces deux-là, et Frontenac s'attache très volontiers à Antoine Lomé. Et justement, il est sensible à ses connaissances du français. Voilà, les photocopies de pages de mémoire. Ça a été écrit plus tard que le moment dont je suis en train de parler, mais malgré tout, on voit la qualité de la calligraphie, etc. Et donc, Frontenac mesure ça, et la vie des Lomé change complètement. Ils ont leurs entrées chez Frontenac, Marie-Thérèse est reçue aussi, elle reçoit chez elle, on a de l'argent, on participe à des fêtes, enfin, la vie est belle. La vie est belle. Et Antoine sera toujours soutenu par Frontenac. Il va repartir encore en France, parce qu'il va être à nouveau demandé, et là il s'agira de dessiner toute cette côte avec un autre, et quand ils ont fini qu'ils aillent en France, ils y vont, et ils vont donner toutes les remarques qu'ils ont faites, un géographe, le géographe du roi, qui va dresser des cartes. Et Antoine repartira à Québec avec un grade supérieur encore de marine. Et Frontenac le retrouve avec plaisir, mais voyant que son protégé est très bien reçu à Versailles et à Paris, eh bien il décide de le nommer gouverneur d'un fort, Michilimackinac, le nom d'origine indienne, près des Grands Lacs. Et donc là, Antoine va apprendre ce que c'est que gérer un fort sur le plan administratif, sur le plan militaire. Il continue à chasser et à vendre des fourrures. Il vend aussi de l'alcool aux Indiens, ce qui était formellement interdit, mais ils le faisaient tous et les Indiens en redemandaient. Mais surtout, Antoine aussi circule tout seul, il bivouaque, etc., dans cette région des Grands Lacs. Il a peur de rien, hein, ça ne le gêne pas du tout. Alors ces grands lacs, ils sont tous navigables. Mais à cette époque, il n'y a pas de lien possible d'un grand lac à l'autre. Il faut mettre pied à terre, porter la marchandise, porter les canots, enfin, etc. C'est très compliqué. Les Anglais que l'on voudrait attaquer sont là, au sud-est. Il y en a d'autres au nord-ouest. Si jamais on attaque les Anglais du sud-est, on peut penser que leurs compatriotes vont venir les aider. Ils peuvent naviguer, mais à un moment ou à l'autre, il faudra transporter tout le matériel, ça sera très long. Or, Antoine remarque qu'entre le lac Huron et le lac Érié, il y a un passage. Il n'y a strictement rien, les arbres, la neige pendant l'hiver. Et il décide de dresser une carte des Grands Lacs. Et quand il sera rappelé de son poste du Fort Michilimackinac, qu'il retrouve Frontenac, il apporte sa carte et puis il montre. Regardez, je ne comprends pas, il n'y a personne là, il faut absolument qu'il y ait la présence française de façon à empêcher la jonction des Anglais. Et Frontenac trouve ça génial et lui dit, ben, tu vas reprendre le bateau. Donc Antoine a fait 8 à 10 traversées durant sa vie en Amérique. Autant de risques à chaque fois. Et ça s'est bien passé. Tu vas aller montrer ça et défendre ton idée. Donc Antoine prend le bateau, arrive en Charente, remonte sur Paris, fait connaissance d'un autre ministre qui remplace Seignelay qui est décédé. Et ce ministre s'appelle Pontchartrain. Donc Pontchartrain le reçoit, il lui montre sa carte, il lui explique ce passage. Et Pontchartrain est séduit. À tel point qu'il décide de le présenter à Louis XIV. Alors on est à Versailles. Louis XIV a perdu son épouse, l'Espagnole Marie-Thérèse. La Montespan, la maîtresse officielle, a été chassée. Il a épousé secrètement Madame de Maintenon, qui est une dame très érudite, mais assez bigote. Et donc, c'est peut-être pas marrant tous les jours. Donc, il faut imaginer la rencontre entre Louis XIV et Antoine Lomé. Louis XIV, pour lui, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Il a un personnage qui va lui parler d'espaces immenses comme Louis XIV n'en a jamais vu, d'animaux sauvages, etc. Enfin, c'est formidable. Et à tel point que Louis XIV dit, bien, je vais donner des ordres pour qu'une expédition soit préparée. C'est vous qui commanderez cette expédition et vous allez aller installer la présence française entre le lac Huron et le lac Érié. Donc Antoine repart à Québec. Frontenac est décédé entre-temps. Il est remplacé par un autre gouverneur qui a reçu les ordres. Il faut bien imaginer quand même que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a pas mal de gens qui critiquent, etc. Mais n'empêche qu'on va préparer l'expédition. Et qu'en juin 1701, il faut imaginer 20 canots. Antoine est sur le premier, enfin dans le premier. Et il y a des hommes en armes, des Européens, des Français. Il y a des Indiens alliés en armes. Il y a des ouvriers. Il y a du matériel, des outils, des provisions, etc. Et on remonte le Saint-Laurent, on traverse le lac Ontario, on est obligé de mettre pied à terre ici, donc on va porter tout le matériel, ça mettra un certain temps, on remet à l'eau pour le lac Érié et on débarque à l'endroit choisi, enfin désigné par Antoine. Et là, les bûcherons entrent en jeu. On coupe les arbres, on écorce, et on plante les arbres les uns à côté des autres. On est en train de construire la palissade, le mur du fort, qu'Antoine va appeler Pontchartrain. Donc ça, c'était une coutume. Quand quelqu'un vous avait soutenu, pour l'honorer, pour le remercier, on donnait son nom. Donc le ministre qui a présenté Antoine à Louis XIV, c'était Pontchartrain. Le fort devient le fort Pontchartrain. Et Antoine, donc, se met à diriger ce fort. Les tribus indiennes se rapprochent comme c'est la coutume, puisque ça permet de faire des échanges. Antoine leur vend toujours de l'alcool. On en parle dans les chaumières, c'est pas bien. Et puis Marie-Thérèse, qui était restée à Québec avec les enfants, il y en a plusieurs, décide au bout de quelques mois de rejoindre son époux. Donc elle s'embarque elle aussi sur des canots avec les petits, des hommes en armes pour l'accompagner et la protéger. Mais enfin, c'est 2500 kilomètres. Il fallait quand même une certaine détermination. C'est une fille du pays qui est née là, qui connaît les difficultés et elle n'hésite pas à venir rejoindre son époux. Et donc, pas, plusieurs enfants, je ne sais pas, 4 ou 5 au moins, naîtront à Fort-Pontchartrain encore. Et Marie-Thérèse s'occupera des petits-enfants indiens. Antoine reçoit très volontiers des chefs indiens à sa table, ça ne pose aucun problème. Mais il rêve de voir ce Fort-Pontchartrain peuplé. Or, ça ne marche pas si bien que ça. Et donc, ils auront peut-être au maximum 600 habitants. Ça ne lui suffit pas. Et vient un jour où il a une idée. Puisqu'il a des hommes avec lui, des soldats, qui sont seuls, ils sont peut-être mariés ailleurs, mais enfin là, ils sont seuls. Pourquoi ne pas les marier avec des indiennes, des tribus environnantes ? Scandale, disent les jésuites. Comment peut-on imaginer que l'on peut marier un soldat, bon soldat, chrétien, avec des êtres vivants, mais dont on ne sait pas si ce sont des humains. Donc les critiques affluent de toutes parts, les pressions sur le roi, etc., à tel point qu'on décide de rappeler Antoine. Mais Antoine, il a rendu service. Cette idée de présence française dans ce passage-là, c'est la sienne. Donc on ne peut pas le mettre au placard comme ça. Alors il faut trouver quelque chose. Et on va avoir l'idée de le nommer gouverneur de Louisiane. Mais la Louisiane, à cette époque, c'est beaucoup plus étendu. On la voit sur la petite tache rouge, là, sur l'Amérique du Nord. C'est beaucoup plus étendu que l'État de Louisiane d'aujourd'hui. Et Antoine a ordre de s'y rendre directement. Il peut le faire en utilisant les cours d'eau. Mais Antoine ne connaît pas la Louisiane. Ça ne lui dit rien, hein. Il n'a pas du tout envie. Donc il décide de désobéir. Il ramène tous les siens à Québec et tout le monde embarque pour venir en France. Il veut aller auprès du roi, se justifier, défendre sa cause, son honneur. Donc c'est la première fois que Marie-Thérèse va venir en France. Antoine fera donc ça et il se retrouve à Paris et à Versailles. Donc la Louisiane, c'est cette tache rouge qui représente tous les territoires arrosés par le Mississippi et le Missouri. Antoine, à la cour, fait connaissance d'un personnage qui s'appelle Crozat. Crozat, c'est un Toulousain. Donc on est Nicolaïte et Toulousain et qu'on se rencontre à plusieurs centaines de kilomètres de là, en général, la sympathie passe vite. Hein. On se retrouve, on discute, on parle un peu occitan, on parle de quelques bons plats qu'on avait l'habitude de manger au pays, etc. Or, Crozat, c'est la plus grosse fortune de France à ce moment-là. Fortune fondée sur la traite négrière. Donc c'est tout à fait l'homme qu'il faut à Antoine. Parce qu'il a bien compris qu'il fallait qu'il aille en Louisiane. Mais il ne veut pas y aller les poches vides, là encore. Il a compris que pour faire quelque chose, il faut des finances. Donc, il va convaincre Crozat d'investir dans son expédition en Louisiane. Et quelques semaines plus tard, ce sont des grands voiliers qui partent avec les cales bien pleines et Antoine est sur le premier navire. Quand il arrive dans le golfe du Mexique, il s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Trump a débaptisé. Quand il arrive, il cherche le delta du Mississippi, il ne le trouve pas facilement, et les paysages qu'il voit ne sont en rien semblables à ceux qu'il connaît. Les terres sont marécageuses, il y a beaucoup d'insectes dont les piqûres sont nuisibles à l'homme, il y a de charmants alligators pour vous accueillir, il y a très peu d'habitants, et tous les gens qu'il rencontre sont malades. Ce qui fait qu'il ne va jamais faire ce qui était prévu. Il va distribuer ses ressources, la nourriture, des médecines, enfin ce qu'il a à bord qui puisse aider. Donc Crozat ne verra jamais venir les bénéfices qu'il espérait, parce qu'il n'a pas investi comme ça pour rien. Et donc on commence à dire qu'il y a du retard, puis finalement on parle de la malhonnêteté d'Antoine. Ça dure quelques années, mais Louis XIV meurt en 1715 et Crozat et d'autres obtiennent que son successeur, le régent, rappelle Antoine. Donc on est en 1717. Antoine a 59 ans. Il a passé 34 ans de sa vie en Amérique. Il rentre en France, c'est son dernier voyage. Et Marie-Thérèse décide de rentrer avec son époux et il ramène les enfants qu'ils ont avec eux. Voilà. Donc, ça ne va pas s'arrêter là.